Le 9 novembre est proposé à Toulouse une journée spéciale sur la maladie de Parkinson. C'est l'occasion de nous informer sur l'avancée de la recherche et des traitements de cette maladie, Isabelle Duché.
Deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente en France après Alzheimer, la maladie de Parkinson touche aujourd'hui plus de 270 000 personnes en France. À l'occasion d'une journée publique d'information à Toulouse et en visio, le 9 novembre, des médecins du centre hospitalier de Toulouse présenteront le résultat de leurs travaux. L'un d'eux est le docteur Margherita Fabry, neurologue au Centre Expert Parkinson au CHU de Toulouse-Purpan, notre invitée ce matin. Bonjour docteur.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Avec joie. France Parkinson estime à une personne sur 50 qui sera atteinte de cette maladie au cours de sa vie. Nous savons que la maladie de Parkinson désigne la disparition progressive des neurones dopaminergiques, ces cellules du cerveau qui sont indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, docteur Margherita Fabry, les facteurs qui entraînent cette disparition ?
Alors oui, en partie disons que c'est une cause multifactorielle qui touche ces neurones dopaminergiques. Il y a d'un côté des facteurs génétiques mais qui intéressent seulement une petite partie de la population, qui vont avec des facteurs environnementaux comme la pollution, qui vont avec d'autres facteurs que nous on ne connaît pas. Et après l'âge, c'est les facteurs des risques les plus importants pour développer la maladie. En fait, la prévalence augmente avec l'âge de façon très importante. Et après, il y a d'autres facteurs pour lesquels nous ne savons pas encore c'est lesquels les liens entre les déclenchements de la maladie et l'apparition de cette morte neuronale. Apparemment, il y a une protéine qui s'appelle alpha-synucléine qui est aussi très lié à l'étiopathologie, à l'avancement de cette maladie, et dans le sens que l'alpha-synucléine est une protéine normale que nous avons tous dans les corps, dans plusieurs parties du corps, comme l'intestin, la peau, les glandes salivaires et le cerveau, et dans les malades qui ont cette maladie, elle s'est replie de façon anormale. Mais nous ne savons pas encore tous les facteurs qui font si que ce replissage se manifeste de façon anormale.
D'où l'intérêt de la recherche et vous allez nous en parler un petit peu plus tard. Alors, oui. C'est vrai que souvent le grand public associe les tremblements à la maladie de Parkinson, c'est quand même un des signes visibles. Quels autres signes doivent pourtant alerter ?
Bien sûr, alors les tremblements est présent chez 70% des malades, c'est un tremblement de repos, ça veut dire qu'il se manifeste quand les malades ils sont au repos, pas quand ils font des actions. Mais il y a énormément d'autres signes qui sont des signes moteurs que nous on peut voir, cela veut dire le ralentissement dans les mouvements, la raideur, les ralentissements dans la marche. Et après, il y a des signes non moteurs qui sont bien présents même avant des signes moteurs et qui augmentent en prévalence fil à mesure tout au long de la maladie que nous, on ne peut pas voir parce que seulement les patients les ressentent, comme par exemple la constipation, la douleur, la perte de l'odorat, l'anxiété, des troubles du sommeil qui sont présentes même année et année avant du déclenchement de l'apparition des symptômes moteurs de la maladie.
Oui, donc pour tous ces symptômes, effectivement, il faut quand même consulter son médecin pour vérifier qu'effectivement, il n'y a pas une maladie de Parkinson qui se cache derrière.
Oui, après les diagnostics, un diagnostic clinique qui est fait, ça veut dire qu'avec l'examen clinique et qui est posé sur la présence au moins de deux signes moteurs. Du coup, il ne faut pas qu'avoir des symptômes non moteurs parce qu'il y en a certains qui, comme la dépression, la constipation, qui peuvent être très spécifiques et ne pas être
liés à la maladie
de Parkinson. Oui, bien sûr.
Un des axes de vos recherches consiste à améliorer la vie des patients. Quelle part la pratique d'une activité physique régulière prend-elle à ce niveau ?
Ouais, disons que l'amélioration de la qualité de vie des patients, ça doit être l'objectif final de toutes nos recherches et de toutes nos études en général. Et du coup, l'activité physique a un rôle fondamental dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, comme dans beaucoup de maladies neurodégénératives, et a un rôle qui est fondamental dès le départ de la maladie et même avant, parce que on a démontré il y a plusieurs années, environ il y a 7 ou 8 ans ou même plus, qu'une activité physique régulière faite au moins 3 fois par semaine pendant 45 minutes avec une activité physique aérobique, ça veut dire avec la fréquence cardiaque qui augmente un tout petit peu petit peu, et fait au moins 150 minutes par semaine. Elle améliore les symptômes moteurs de la maladie, probablement certains symptômes non moteurs aussi, mais surtout, elle améliore des symptômes comme la marche, la posture, qui sont très difficiles à traiter. Et ça a été démontré en des patients qui étaient en phase initiale des maladies. Il faut encore les démontrer dans la phase un peu prodromale, encore avant que les symptômes se manifestent, dans des phases plus avancées, mais il y a des recherches très bien faites sur cet aspect-là, sur ces
D'accord.
points-là.
Donc une activité physique régulière, vous dites trois fois par semaine, voilà, ça permet de stimuler les zones du cerveau finalement qui auraient besoin de cette activité.
Voilà, et de mettre en place des routes alternatives aussi, dans le sens que les mouvements, l'exercice physique, elle peut mettre, apprendre les patients à bouger, parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui touche les mouvements, il faut la traiter avec les mouvements.
Oui, intéressant. Il y a aussi une bonne nutrition qui est recommandée pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Quelle est cette bonne nutrition?
Alors, il y a eu des recherches un peu moins, établies que celles faites de l'activité physique, qui ont suggéré que la diète méditerranée pourrait éventuellement avoir un aide dans la réduction de la prévalence de la maladie de Parkinson, ou en tout cas aider des malades qui ont déjà la maladie à avoir une maladie qui puisse aller un tout petit peu mieux. Quand on parle des diètes méditerranéennes, on parle de manger surtout les protéines les soirs, et dans ces cas-là, dans les cas des malades qui ont déjà la maladie, on conseille surtout de prendre les médicaments dopaminergiques, notamment la levodopa et autres, un peu éloignés de la prise de protéines, parce que les protéines, on doit les manger, absolument. Il ne faut pas être végétarien, ce n'est pas conseillé non plus. Mais elles peuvent avoir une compétition au niveau de l'absorption intestinale avec la levodopa. Du coup, il faut juste les prendre de façon un peu éloignée de médicaments.
Mm-hmm. Voilà. Et puis, cette diète méditerranéenne, c'est aussi beaucoup de fruits et légumes, de l'huile d'olive.
Voilà, très varié en général. Après, c'est tout ce qu'on conseille en général, pas que dans la maladie de Parkinson, aussi dans d'autres maladies neurodégénératives, dans la prévention du diabète, des AVC, etc. Ce sont des choses, des lignes de vie générales.
Oui, c'est ça. C'est du bon sens. Ouais. Et voilà. Il faut s'y mettre. Nous, les Français, on a un petit peu de mal avec...
tout le monde, hein, moi aussi.
Alors, la bonne nutrition et la pratique d'une activité physique régulière, est-ce qu'elles peuvent être aussi efficaces pour ralentir la progression de la maladie?
Alors, ça encore, on ne peut pas les dire de façon avec certitude. Et comme je vous ai dit, il y a des études actuellement en cours qui ciblent des malades qui n'ont pas encore manifesté tous les symptômes de la maladie pour voir si ça peut ralentir un peu les symptômes, l'apparition des symptômes. On pourra vous les dire dans quelques temps, je pense, ou quelques années. Mais c'est sûr que la combinaison des médicaments, parce que je ne suis pas en train de dire que les médicaments, ils ne servent à rien. Au contraire, on doit prendre la bonne combinaison des médicaments avec une bonne style de vie.
La recherche sur la maladie de Parkinson regroupe trois actes, comme normalement toute recherche qui permet d'améliorer la compréhension et la prise en charge de la maladie. Il y a d'abord la recherche fondamentale qui explore les mécanismes biologiques de la maladie pour comprendre ses origines. Il y a aussi la recherche en sciences humaines et sociales qui étudie l'impact de la maladie sur la vie quotidienne des personnes et leurs proches, et ça explore donc des approches non médicamenteuses spécifiques. Et puis il y a cette troisième recherche, la recherche clinique dont vous vous occupez, docteur Margarita Fabry. Quels sont les traitements, donc les traitements médicamenteux, et puis ceux qui sont autres que les médicaments?
Alors, on a trois différents, disons, niveaux de traitement. On a des traitements, des comprimés, disons, des traitements médicamenteux. Et les traitements médicamenteux peuvent être soit des comprimés, soit des traitements de deuxième ligne, des traitements qui doivent être proposés à des malades qui sont en phase un petit peu plus compliquée des maladies, qui peuvent être des pompes, qui peuvent être attachées au niveau de la peau, avec une petite aiguille au niveau de la peau, ou directement dans l'intestin avec une petite tube, ou qui des traitements comme la stimulation cérébrale profonde qui est née en France, Grenoble il y a plus de 30 ans et qui a fait des énormes avancements, surtout dans ses réglages, dans la capacité de livrer une différent type d'énergie, disons, de stimuler de façon différente les noyaux de la base. Ça, ce sont des traitements, des phases avancées des maladies qui doivent être combinées avec les traitements, les comprimés, toujours.
Et après, la pompe, elle permet d'avoir un traitement en continu, en fait,
voilà,
c'est ça l'intérêt ?
H24 ou H16, soit que pendant la journée, soit aussi la nuit. D'accord. Et c'est un traitement très intéressant. Après, il y a les contraintes d'avoir toujours une pompe sur les patients. Oui. Du coup, il y a toujours des risques et des bénéfices que normalement, nous, on discute avec les patients ou les familiales pour décider c'est lesquels les traitements meilleurs qu'ils veulent. Il y a, les patients doivent être mis aussi au centre de la discussion dans ces situations-là. Et après, il y a les traitements non pharmacologiques, comme on a dit, l'éducation physique, l'exercice, la kiné, l'orthophonie, la thérapie occupationnelle, l'ergothérapie. Il y a une prise en charge qui est globale du patient, qui est un peu à 360 degrés, disons ça.
Et vous vous occupez particulièrement de la place des objets connectés. Est-ce que vous pouvez nous en parler dans cette maladie?
Oui, bien sûr. Alors, les objets connectés, ce sont des outils technologiques qu'on utilise dans des différents domaines de la médecine pour accompagner les malades, les aider, soit dans la prise des médicaments, soit suivre leurs symptômes quand ils sont à la maison. Parce que je vous explique, moi, je vois mes malades une ou deux fois par an dans une consultation qui dure 30 minutes et j'essaie de comprendre un peu leur vie, mais ce n'est pas tout à fait hyper facile de comprendre qu'est-ce qui se passe à la maison H24 dans des situations beaucoup plus écologiques, ce qu'on appelle. Alors qu'à l'hôpital, ce n'est pas du tout une situation écologique, c'est une situation un peu qui n'est pas vraie, parce que les malades, ils peuvent être très bien ou très mal, et à la maison, ils peuvent être de façon, peut présenter des symptômes tout à fait différents. Les objets connectés peuvent être des montres, des actimètres, des choses qu'on place sur le corps du patient qu'il porte H24 pendant la journée, ça dépend des objets, et qui peuvent suivre ses symptômes et être élaborés à travers des algorithmes qui sont après présentés aux cliniciens pour nous dire, écoutez, il y a ces symptômes-là à ces moments-là de la journée, cet autre symptôme à cet autre moment-là. Après, il y a...
Ça suit quoi comme activité?
Alors, ça suit des activités normalement, notamment moteur, ça veut dire la quantité d'activité que les patients font, mais aussi la marche. La marche, elle peut avoir des caractéristiques énormément différentes en termes des pas, des cadences, des variabilités de la marche, et tout ça est lié à l'état moteur du patient. Elle peut nous donner énormément des informations sur l'état du patient. Ils peuvent suivre les sommeils, la qualité du sommeil, les mouvements que les patients ont fait dans les sommeils, mais attention, on n'est pas encore arrivé à une validation complète de cet objectif connecté, sinon on les aurait déjà utilisés depuis des décades. Et on doit comprendre aussi l'output, ça veut dire les infos que les objets ils nous donnent, à quoi ils servent exactement et s'ils sont vraiment un miroir de la santé du patient ou pas. Du coup, il y a des détails encore, pas mal de détails à clarifier.
Oui, parce que ça fait un flux d'informations à traiter
énorme. Pour lesquels certains objets ont besoin vraiment des ingénieurs qui peuvent analyser les données pour nous les rendre plus simples et claires.
Un autre axe de recherche porte sur le diagnostic de la maladie de Parkinson. Vous-même, docteur Margarita Fabry, est-ce que vous établissez ce type de diagnostic? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour être plus précis?
Alors, il manque ce qu'on appelle des biomarqueurs des maladies. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un biomarqueur? C'est un signal, disons ça, qui nous dit qu'il y a quelque chose de pathologique qui n'est pas normal dans un patient, si on veut le dire de façon très simple. Ça veut dire que le diagnostic est fait que par les neurologues. Très rarement, les neurologues ont besoin de faire un examen, comme un IRM ou un DAT scan, pour voir s'il y a une perte des neurones dopaminergiques. Dans des cas, il est conseillé de les faire. Dans d'autres cas, plus classiques, non. La réponse aux médicaments, qui est bonne dans la maladie de Parkinson, nous donne aussi un élément important qui confirme les diagnostics. Ça, c'est très important aussi. Mais après, nous n'avons jamais une certitude à 100%. Et on manque de quelque chose qui peut nous aider à 100% à diagnostiquer la maladie, mais surtout pas que à la diagnostiquer, à les suivre dans les tempes. Et ça, c'est très utile, ça serait très utile dans les la perspective des essais cliniques, dans le sens que les essais cliniques, ils doivent voir si un médicament est efficace ou pas. Et pour les dire, on a besoin de quelque chose qui nous dit si la maladie avance ou
et
pas,
oui, c'est ça.
De façon objective. Mmh. Ça, ça nous manque encore un peu.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement vous ayez
justement, il faudrait que soit on arrive à un marqueur, à un outil de neuroimagerie, ou à un outil objectif qui puisse suivre la maladie. On en a, on a fait des avancements énormes. On doit encore démontrer s'il y en a un qui soit meilleur que l'autre ou qui vraiment soit très objectif.
Voilà, une recherche qui se poursuit jour après jour. Merci beaucoup,
oui.
Docteur Margarita Fabry, pour toutes ces précisions sur la maladie de Parkinson. Vous serez présente à cette journée du 9 novembre, une journée ouverte à tous et gratuite au Stadium. Il y aura une conférence, des temps d'échange avec les chercheurs et les ateliers. Et je précise qu'il faut s'inscrire et qu'on peut la suivre en ligne avec le lien parlonsrecherche.fr. Voilà, vous pouvez trouver toutes ces informations, évidemment, sur votre moteur de recherche. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée.